Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng.
Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier cours de cette année universitaire que nous avons passé à contextualiser et décrypter cette formule canonique. Il ne peut y avoir deux soleils dans le ciel, ni deux princes dans un même pays, en nous demandant comment les idées européennes de pluralisme politique, notamment celles de Montesquieu, ont pu être reçues et perçues dans une perspective traditionnelle chinoise qui apparaît, au moins jusqu'à maintenant, comme fondamentalement moniste, c'est-à-dire fondée sur l'idée du « un ». Alors, la semaine dernière, nous évoquions ce tournant que nous avons cru remarquer dans le courant majoritaire, hein, ce que les anglo-saxons appellent le « mainstream », du discours académique actuel en Chine, qui a été pendant un certain temps axé sur la renaissance de la tradition confucéenne. Ça a été très très promu et soutenu par le discours officiel chinois, hein. Donc la tradition confucéenne comme réponse spécifiquement chinoise au problème de la modernité et à la suprématie occidentale, et qui semble maintenant, donc ce courant majoritaire, qui semble maintenant redécouvrir les vertus du Tao, hein, qui serait encore plus fondamentalement chinois, comme promoteur de l'unité et de l'un. Alors certes, comme nous l'avons vu, les spéculations sur les rapports entre le Tao et l'un, c'est-à-dire le Yi en chinois, ne datent pas d'hier et ont même été d'abord le fait de la sinologie européenne spécialisée dans les études taoïstes. Nous avons évoqué la dernière fois les figures d'Isabelle Robinet et d'Anna Seidel, donc deux grandes dames des études taoïstes en France. Mais c'est un phénomène tout à fait remarquable que l'on note actuellement en Chine même, à savoir le phénomène d'un regain d'intérêt pour cette thématique taoïste à partir d'une nouvelle base, à savoir l'exploitation d'un corpus de manuscrits qui ont été découverts dans des tombes d'avant l'ère chrétienne. Alors, la conséquence première, c'est que la question des rapports du Tao et de l'un n'est plus l'apanage des chercheurs taoïsants, pour ainsi dire, mais elle est partagée par les archéologues, les philologues, les paléographes, les épigraphistes et bien sûr plus largement les philosophes qui s'occupent de tout. Hein, bon. Alors nous allons voir que se sont jetés dans la mêlée, hein, alors des chercheurs de tous bords, aussi bien occidentaux, c'est-à-dire américains et européens, et que chinois. Alors, je commencerai par cette collègue américaine qui s'appelle Sarah Allen, qui est née en 1945. C'est une paléographe donc américaine dont j'ai eu déjà l'occasion de vous parler. Donc spécialiste de la Chine ancienne, elle a été formée dans les années 1960-70 en Californie, à UCLA, donc University of California at Los Angeles, et à Berkeley en études chinoises, en archéologie et en histoire de l'art. Hein, donc c'est, elle n'est pas spécifiquement dans les études taoïstes. Alors, elle a publié de très nombreux ouvrages en anglais, ce serait vraiment trop long de vous faire la liste, mais également en chinois, sous le nom de Ailan, alors qui se trouve être mon nom en chinois. Donc, sous le nom de Ailan, ça peut être Madame Sarah Allen ou moi. Hein. Alors, dans ses travaux, Sarah Allen a tenté de reconstruire les concepts de base de la mythologie de la dynastie Shang, cette dynastie de la haute antiquité chinoise, en s'appuyant sur des preuves provenant d'un certain nombre de sources diverses, alors notamment donc des inscriptions sur os oraculaires et sur bronze, également sur des mythes et des récits qui ont été consignés sous les dynasties ultérieures des Zhou et des Han, ainsi que sur des données archéologiques. Alors, parmi ces très nombreuses publications, je signale en particulier donc un ouvrage qui a été publié en 2015, et qui s'intitule Legends of Abdication and Ideal Government in Recently Discovered Early Chinese Bamboo Slip Manuscripts. Ce qui veut dire donc les légendes d'abdication et de le gouvernement idéal dans des manuscrits sur fiches de bambou découverts récemment. Et cet ouvrage traite de quatre textes de la période des royaumes combattants, dont je rappelle qu'ils ont couvert la période entre le 475 et 221. Donc des textes qui portent sur l'abdication du souverain mythique Yao au profit de Shun. Donc c'est une thématique que nous avons vue récemment traitée par Mencius, par Maître Meng. Donc à partir de là, Sarah Allen justement aborde les questions de méritocratie et de succession héréditaire dans la tradition politique chinoise. Alors, Sarah Allen, comme beaucoup de collègues américains et aussi européens, a également collaboré assez largement avec des chercheurs chinois, au premier rang desquels il faut mentionner le grand historien Li Xueqin, que vous avez ici à l'image. Alors, il est photographié ici devant une bibliothèque, mais également son propre portrait. Hein. Donc Li Xueqin, ça a été vraiment un très grand nom de l'historiographie chinoise, hein, un grand spécialiste de la Chine ancienne, parfois un tout petit peu contesté parce que, bon, c'est quelqu'un qui, évidemment, travaillait un petit peu sous les injonctions du pouvoir central, donc pas toujours... de la plus grande objectivité, mais enfin, toujours est-il que quand même un très grand savant qui est né en 1933 et qui est décédé en 2019. Alors, Sarah Allen, pour revenir à elle, a enseigné une partie de sa carrière en Angleterre, donc à la SOAS, à la School of Oriental and African Studies de Londres. Ensuite, elle est revenue aux États-Unis, donc où elle a occupé une chaire au Dartmouth College jusqu'en 2019, et elle est présidente de la Society for the Study of Early China, hein, donc l'association qui est pour l'étude de la Chine ancienne, qui édite la revue savante Early China, donc Chine ancienne. Alors, en bas de cette diapositive, J'ai mentionné donc un article important et assez long de Sarah Allen qui s'intitule « The Great One, Water and the Laozi, New Light from Guodian ». Donc le grand 1, l'eau et le Laozi. Nouvelle lumière ou nouvel éclairage à partir de Guodian. Et c'est paru dans la revue sinologique très vénérable hein, qui s'intitule Trompa, numéro 89, publié donc en 2003. Alors, dans cet article, Sarah Allen retrace donc l'historique de certains de ces manuscrits découverts dans des tombes en 1993, au moment où des archéologues chinois ont fouillé une tombe de la période des royaumes combattants hein, sur le lieu dit de Qingmen Guodian. Ça se situe dans la province du Hubei. Donc nous sommes au centre-sud de la Chine, au sud du grand fleuve. Et dans cette tombe, ces archéologues ont découvert un ensemble de textes philosophiques écrits sur quelques 800 fiches de bambou. Et donc cet ensemble de manuscrits sur bambou a été publié en 1998 sous le titre « Guodian Chumu Zhujian ». Donc vous avez une de ces éditions ici à l'image avec donc l'édition de du premier manuscrit du Laozi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fiches de bambou ? Vous avez ici une autre image où on vous montre justement ces fiches de bambou du pays de Chou, du royaume de Chou, découvert à Guodian. Alors, ces fiches de bambou se présentent de la façon suivante. Vous avez donc sur chaque fiche, hein, justement un texte donc écrit, c'est-à-dire donc vous avez ces colonnes de caractères qui sont inscrites donc en verticale sur ces lattes et ensuite donc ces lattes sont reliées entre elles avec des cordons comme vous voyez hein, donc à deux à chaque extrémité et un cordon au milieu et ensuite ça s'enroule comme des stores vénitiens et c'est pour ça que justement les premiers manuscrits en Chine se comptent par rouleau. Alors quand on vous parle d'un rouleau c'est ça hein, c'est-à-dire donc c'est un ensemble de lattes qui sont reliées entre elles et qui sont ensuite enroulées. Vous voyez ici hein, donc des caractères, hein, des proto-caractères chinois. Alors, vous avez quelquefois l'impression que vous arrivez presque à les lire, hein, alors que ça date quand même enfin de plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. Hein, nous sommes à plus de 2500 ans d'écart. Alors, certes, quand vous y regardez de plus près, c'est pas absolument aussi évident que ça, parce que ça demande quand même une formation d'épigraphistes. Et donc ici, vous avez les 14 fiches hein, d'un texte que les éditeurs de cette collection de manuscrits du pays de Chou ont intitulé donc par sa première phrase, à savoir « Taï Sheng Shui », c'est-à-dire donc le grand 1, littéralement « donne naissance à l'eau ». Alors, Ce manuscrit, on a beaucoup, évidemment, ça a provoqué bien sûr une quantité incalculable de discussions, de spéculations en tout genre, parce que en fait c'est un texte qui était totalement inconnu avant sa découverte sous forme manuscrite dans cette tombe. Et donc, c'est un texte qui n'a aucun équivalent, ni en totalité, ni en partie, dans la tradition textuelle reçue. Donc, en fait, la découverte de ces manuscrits, justement, a provoqué tout un travail de recherche et de questionnement sur, justement, les textes tels que nous les connaissons. Dans la tradition textuelle, nous avons un texte bien connu, donc du Laozi, également appelé Tao Te Ching, c'est-à-dire donc le livre canonique du Tao et de sa, on traduit conventionnellement et assez bêtement par vertu, mais en fait c'est plutôt le Tao et sa puissance. Alors, les chercheurs se sont évidemment beaucoup questionnés sur ce texte du Tai Shen Shui. Alors, ils ont d'abord supposé que ces 14 fiches, d'abord constituaient une seule et même unité. Alors, soit ça pouvait être un texte différent du Laozi, dont on a retrouvé également un manuscrit sur fiche de bambou dans la même tombe. Donc ces fiches du Tai Shen Shui étaient rattachées au troisième manuscrit du Laozi découvert dans cette tombe, ou alors on a pu penser que c'était une partie d'un texte, d'une version originale du Laozi qui ne figure plus dans la version reçue. Alors, l'historien que j'ai nommé précédemment Li Xueqin, lui considérait donc le Tai Shen Shui comme un texte distinct, et il a émis l'hypothèse, qui a évidemment été très contestée par la suite, mais enfin, il a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une œuvre perdue d'un disciple de Laozi, ou d'un personnage en tout cas associé à Laozi, appelé Kuan Yin. Et il en voulait pour preuve un passage du dernier chapitre du Zhuangzi, le chapitre 33, dont nous avons cité le début la dernière fois. Ce chapitre 33 qui, en fait, fait un peu la synthèse de certains courants de pensée précédant l'époque Han, ce qui permet de supposer que c'est un chapitre qui a été rédigé au début de la période Han, autrement dit, qui n'a pas grand-chose à voir avec la voix de Zhuangzi lui-même. Alors, l'extrait que vous avez à l'image met en scène justement donc ces deux personnages, à savoir Kuan Yin et Laozi sous le nom de Lao Tan. Alors, le texte chinois dit ceci, donc « Yi ben wei jing, yi wu wei cu, yi you ji wei bu zu, dan ran du qi shen ming ju, gu zhi dao shu you zai yu shi zhe, guan yin lao dan wen qi feng er yue zhi, jian zhi yi chang wu you, zhu zhi yi tai yi. Alors ça c'est donc l'expression que j'ai soulignée en rouge. Yi ru ruo qian xia wei biao, yi kong xu bu hui wan wu wei shi. Guan yin yue, zai ji wu ju, xing wu zi zhu, qi dong ruo shui, qi jing ruo jing. 其因若想，物乎若亡，几乎若亲，同焉者何？得焉者失？未尝先人而尝随人。Alors, c'est un passage dont je vous lis la traduction par Jean Lévy, que je mentionnais la dernière fois, qui a traduit donc l'intégralité du Zhuangzi. Et c'est ainsi qu'il traduit ce passage, donc « tenir le principe pour subtil et les corps pour grossier, considérer le surplus comme un manque, évoluer un pas vide en compagnie des entités lumineuses et transcendantes, c'était là des préceptes qui faisaient partie de la voie des anciens et auxquels s'attachèrent tout particulièrement Guan Yin, que Jean Lévy traduit par le gardien de la passe, et Lao Zi, le vieux aux longues oreilles. Alors donc le Tan ici, vous voyez qu'il a l'élément oreille parce que Lao Zi était censé être un grand sage dont la manifestation était des longues oreilles. Donc si vous avez des grandes oreilles, ça veut dire que vous avez atteint la sagesse. Donc ils assirent leur doctrine sur le postulat d'un non-être éternel, ça traduit le Chang Wuyo, et immuable, et firent tout reposer sur l'unité suprême. C'est comme ça qu'il traduit donc Zhu Zhi et Tai Yi. Il prônait donc la faiblesse et l'humilité à l'extérieur et voulait qu'on eût le vide pour seule réalité intérieure afin d'éviter de nuire aux êtres. Kuan Yin, donc le gardien de la passe, délivrait ses aphorismes. Alors, Jean Lévy traduit par « gardien de la passe » parce qu'il y a cette légende selon laquelle donc, Lao Zi aurait disparu vers l'ouest, en allant vers l'ouest, et que le dernier personnage à qui il est parlé, avant de disparaître à l'ouest, c'était justement ce gardien, hein, ce Kuan Yin. Alors, certains propos sont attribués à Kuan Yin dans ce passage, à savoir que ton moi soit sans attache et toutes les choses se manifesteront dans leur vérité, soit l'eau en mouvement, un miroir au repos, l'écho en répondant, soit flou et comme inexistant, serein comme une eau pure. Qui se conforme s'accorde, qui cherche à obtenir perdra. Ne prends jamais le pas, contente-toi de l'emboîter. Alors, ce qui a paru intéressant donc à Sarah Allen, c'est justement l'association de cette notion du Tao qui est représentée ici par Lao Zi et par ce mystérieux personnage de Kuan Yin, l'association du Tao avec la thématique de l'eau, hein, qu'on trouve de fait dans le texte du Lao Zi, dans le texte du Tao Te Ching, hein, où le Tao est très souvent en fait comparé justement à l'eau. Vous avez dans ce texte, ce sont les deux premiers mots de la deuxième ligne, cette expression donc Shen Ming, que évidemment qui est très délicate à traduire. Alors Jean Lévy l'a traduit par entité lumineuse et transcendante. Sarah Allen, dans sa traduction en anglais, a une astuce que j'aime assez. Elle traduit Shen par numinous et Ming par luminous. C'est-à-dire, il s'agit du lumineux et du lumineux. Alors, le lumineux avec un N, ça vient du latin numen, qui désigne justement tout ce qui est, de l'ordre non pas du naturel ordinaire, mais de quelque chose qui dépasse justement notre entendement habituel. Donc on peut y voir justement tout ce qui est du domaine des esprits, des divinités, des ancêtres défunts, etc., etc., c'est-à-dire tout ce qui dépasse justement notre vision habituelle de l'humanité. Et Ming traduit effectivement justement cette notion de lumière. Hein. Ming, c'est ce caractère qui est composé du soleil et de la lune, hein. C'est donc la lumière, mais une lumière qu'on pourrait dire transcendante, hein, comme le dit Jean Lévy, c'est-à-dire quelque chose qui est dégagé par une espèce d'aura surnaturelle. Donc ici, nous sommes vraiment dans le domaine de quelque chose qui dépasse l'humain. Alors, pour en venir maintenant à ce texte du Taiyi Sheng Shui, vous l'avez vu, donc je vous l'ai montré donc dans les fiches originales, hein, pardon, ici, voilà. Donc vous avez ces 14 fiches, hein, qui sont conservées au musée provincial du Hubei. Voilà ce que ça donne en transcription en caractère moderne. Alors, vous voyez que c'est assez complexe parce que vous avez, par exemple, des petits carrés, hein, qui correspondent à des caractères qu'on suppose soit manquants, soit qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Hein. Et vous avez, entre parenthèses, hein, des caractères dont on a suppléé donc la version moderne, hein, et donc qui sont encore sujets un petit peu à caution, c'est-à-dire que on a un texte qui est dûment écrit, hein, mais il y a encore des caractères dont on n'est pas sûr, hein, qu'ils étaient bien identifiés, hein, et donc chacun y est allé bon de sa lecture. Alors, je vais vous donner ici la lecture donc d'un chercheur enseignant chinois. C'est le professeur Wang Zhongtian, donc de l'université de Pékin, que vous voyez ici, qui est l'auteur de pas mal d'ouvrages justement sur la question de ces la question, disons, du sens philosophique de ces manuscrits sur bambou, hein. Et il s'est fait connaître dans le monde occidental par des traductions en anglais de ces ouvrages. Alors à gauche, vous avez donc un ouvrage qui s'intitule Taoism Excavated: Cosmos and Humanity in Early Manuscripts, donc le taoïsme exhumé, hein, c'est-à-dire donc les versions de textes taoïstes sorties des tombes, cosmos et humanité dans les manuscrits anciens. Et à droite, vous avez cet autre ouvrage intitulé donc Order in Early Chinese Excavated Texts. Sous-titre Natural, Supernatural and Legal Approaches, paru donc en 2016. Alors c'est donc l'ordre dans les textes exhumés de la Chine ancienne, approche naturelle, surnaturelle et légale. Donc là, vous voyez que dans ce sous-titre sont superposés différents niveaux qui, dans notre logique occidentale, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, mais en tout cas, ça vous montre donc un petit peu la complexité du problème. Et voilà donc sa lecture, c'est-à-dire la façon dont il rend donc en chinois moderne le texte du Taiyi Shengshui. Alors, nous allons juste lire les 8 premières fiches sur les 14, hein, parce que c'est déjà assez complexe et il y a que justement cette première partie qui nous intéresse vraiment. Donc, Taiyi Shengshui. Alors déjà, il y a un problème sur le tout premier caractère parce que tout le monde a pris l'habitude de le lire Tai, qui veut dire donc très grand ou le plus grand ou le suprême, alors que ce qu'on lit c'est Taiyi, hein, c'est le grand un. Bon, alors Taiyi ou Taiyi Shengshui, Shui Fan Fu Taiyi, Shi Yi Chen Tian, Tian Fan 府大一是以成帝天地互相辅也。Alors, vous avez ici donc cette première phrase qui vous dit donc le grand un ou le l'un suprême donna naissance à l'eau. Alors, comme vous savez, les verbes en chinois, qu'ils soient anciens ou modernes, ne portent pas la marque du temps, hein, et donc on ne peut pas savoir si c'est un passé ou un présent. Hein, donc, si on considère que c'est un processus qui continue, il faut le traduire par un présent. Hein, donc, le grand un donc donne naissance à l'eau. L'eau fait retour, fan. Assiste le grand un, et c'est ainsi qu'est produit donc le ciel. Alors cette notion de fan est très importante dans le Tao Te Ching, dans le Laozi, cette notion de faire retour, hein, parce que justement le Laozi préconise précisément cette démarche de faire retour au lieu de se justement d'aller dans le sens du courant. Il s'agit en fait de remonter vers l'origine, et donc c'est ainsi qu'est produit le ciel, et le ciel à son tour fait retour pour assister le grand un, et c'est ainsi qu'est produite la terre. Et donc, le ciel et la terre, là, il y a de nouveau ce mot fou qui va avec fan, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce mouvement de retour. Ils font retour pour s'assister mutuellement. Shi Yi Cheng Shen Ming. Et c'est ainsi que sont produites justement ces entités lumineuse et lumineuse. Alors, vous avez cette indication ici, Tianyi, c'est-à-dire que ici nous arrivons à la fin de la première fiche. Donc, ici, ce qui est entre parenthèses carrées, ici, là, c'est quand on arrive donc à la fin au bout d'une fiche. Bon. Alors, ces Shen Ming, Fu Xiang Fu Ye, Shi Yi Cheng Yin Yang, Yin Yang Fu Xiang Fu Ye, Shi Yi Cheng Si Shi, Si Shi Fu Xiang Fu Ye, Shi Yi Cheng Cang Re, Cang Re Fu Xiang Fu Ye, Shi Yi Cheng Shi Zao, Shi Zao Fu Xiang Fu Ye, Cheng Sui Er Zhi. Bon. Alors, donc, vous voyez que là, il y a une espèce de cycle qui se met en marche. Hein, donc, les entités lumineuses et lumineuses font retour pour s'assister mutuellement, et c'est ainsi que sont produits Yin et Yang. Bon, alors là, on commence à être en terrain un tout petit peu connu. Hein, le Yin et le Yang font retour pour s'assister mutuellement, et c'est ainsi que sont produites les quatre saisons. Les quatre saisons font retour pour s'assister mutuellement, et c'est ainsi que sont produits le froid et le chaud. Le froid et le chaud s'assistent mutuellement et c'est ainsi que sont produits donc produite l'humidité et la sécheresse. Et l'humidité et la sécheresse s'assistent mutuellement pour produire sui, c'est-à-dire une année. Sui, ça peut désigner en fait une année ou une récolte, puisque nous sommes encore une fois dans une civilisation agraire. Donc l'année, en fait, c'est l'année agraire qui se solde par une récolte. Donc une fois que le sui, l'année où la récolte est accomplie, erge, donc le cycle s'arrête. Ku sui zhe, shi zao zhe suo sheng ye, shi zao zhe, cang re zhe suo sheng ye, cang re zhe si shi zhe suo sheng ye, si shi zhe yin yang zhe suo sheng ye, yin yang zhe shen ming zhe suo sheng ye, shen ming zhe tian di zhe suo sheng ye, tian di zhe tai yi zhe suo sheng ye. Alors, là, on remonte donc le cycle, l'année, cette année agraire, c'est ce que produit donc l'humidité et la sécheresse. L'humidité et la sécheresse, c'est ce que produisent le chaud et le froid, le froid et le chaud, pardon. Le froid et le chaud, c'est ce que produisent les quatre saisons. Et les quatre saisons, c'est ce que produisent le yin et le yang. Le yin et le yang, ce sont ce que produisent les entités lumineuses et lumineuses. Et ces entités sont ce que produisent le ciel et la terre. Et le ciel et la terre sont produits par donc le grand 1. Et enfin, donc, shi gu, da yi, cang yu shui, xing yu shi, zhou er you shi, yi ji, wei wan wu mu, yi que yi ying, yi ji, wei wan wu jing, ci tian zhi suo bu neng sha, di zhi suo bu neng mai, yin yang zhi suo bu neng cheng, jun zi zhi ci zhi wei zhi, bu zhi ci zhi wei yu. Donc, de cette façon, donc pour cette raison, le grand 1, Cang Yu Shui, il littéralement, il réside dans l'eau et il se meut à travers donc soit le Shi, c'est le temps ou les saisons. Il fait un tour complet avant de recommencer, donc c'est un cycle. Et donc le grand 1 se considère comme la mère des 10 000 êtres. Donc le Wan Wu Zhi Mu, c'est une expression que vous avez dans le Tao Te Ching, qui est appliquée au Tao. Ici, c'est appliqué donc au grand 1. Donc un vide, un plein. Et c'est ainsi que le grand 1 se considère comme la norme constante des 10 000 êtres. C'est pourquoi donc le ciel c'est ce que le ciel ne peut pas c'est-à-dire tuer. C'est ce que la terre ne peut pas ensevelir. C'est ce que le yin et le yang ne peuvent pas accomplir. Alors là, la dernière phrase, le professeur Wang Zhongjiang y va de son interprétation, parce qu'il supplée enfin des caractères qui ne sont pas dans le manuscrit. Donc le junzi, l'homme de bien, c'est cela parce que justement c'est que c'est là la sagesse, et celui qui ne sait pas cela est un imbécile, est un alors le caractère yu, c'est lui qui l'a supplé, bon, alors donc c'est sans garantie, donc c'est juste une supposition de lecture. Alors, vous voyez que nous sommes dans quelque chose de vraiment pas très simple, hein, d'autant plus que... alors, ce qu'on comprend quand même de ce texte, c'est que nous avons une identification donc du concept bien connu de Tao, hein, de la voix, avec ce grand un, hein, ce Tai ou ce Tai. Alors, cette identification, d'après donc nombre de chercheurs, se serait produite dès la période des royaumes combattants, c'est-à-dire avant donc la centralisation du premier empire en 221, avant l'ère chrétienne. Et selon l'analyse de certains historiens chinois, ce terme Tai ou Tai, ou quelquefois abrégé en Yi tout simplement, renvoie à pas moins de 4 champs sémantiques qui, pour augmenter la complexité, se chevauchent ou sont corrélés ou coordonnés les uns avec les autres dans les premières sources textuelles dites taoïstes. Alors, ce tai, on s'est beaucoup demandé qu'est-ce que ça peut désigner. Hein. Alors, il y a d'abord, il semblerait que ce soit le sens premier, hein, ça désigne en fait l'étoile polaire. C'est-à-dire donc une sorte de repère unique dans la voûte céleste, hein, qui serait donc cette étoile polaire. Et ensuite est venu s'associer à cette étoile polaire donc un esprit, c'est-à-dire un humain, comme diraient les Romains, hein, donc un esprit ou une divinité, si vous voulez, associé à cette étoile. Ensuite, si vous lisez Tai, hein, le un suprême, ça peut être assimilé à ce qu'on a appelé le Tai Chi. Hein. Le Tai Chi, c'est-à-dire le grand ultime ou le fait suprême, hein, que peut-être certains d'entre vous qui pratiquent le Tai Chi Chuan, hein, pratique au quotidien, c'est-à-dire donc le Tai Chi Chuan, c'est justement cette espèce d'art martial, mais en douceur, hein, qu'on appelle justement la boxe du fait suprême. Hein. Bon. Et alors, en quatrième lieu, donc, comme on l'a vu, le Tai Yi, le grand 1, s'identifie donc au Tao. Hein, c'est un autre nom du Tao. Alors, vous avez évidemment les plus grands, les meilleurs spécialistes qui se sont penchés sur la question. Hein. Vous avez d'abord donc cet historien chinois dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, le professeur Li Ling de l'université de Pékin, qui s'est fondé sur des preuves archéologiques et textuelles. Hein, pour établir donc l'importance du culte astronomique du grand 1 au royaume de Chu, c'est-à-dire là où on a découvert justement ce manuscrit, à l'époque pré-impériale, à l'époque d'avant l'unification de l'Empire par Qin Shi Huang, par le premier empereur Qin. Et selon Li Ling, lorsque nous arrivons donc sous les Han antérieurs, au règne du grand empereur Wu Ti, un des grands justement règnes de cette première partie des Han, qui a régné donc entre 140 et 87 avant notre ère, donc sous ce règne, selon Li Ling, beaucoup de fonctionnaires de l'État Han était natif justement du pays de Chu, hein, et c'est donc ainsi, selon lui, que le grand Un est devenu le chef, hein, de tous les esprits dans le cadre d'une réorganisation du panthéon cérémoniel de la cour des Han. Han Wuti est connu pour avoir eu un, comment dire, une espèce de passion démesurée alors pour les sacrifices et le culte de l'immortalité, hein, c'est-à-dire la sienne propre, hein, d'immortalité forcément, hein. Il a vraiment essayé toutes sortes de recettes plus ou moins risquées, enfin d'obtention de l'immortalité. Bon, apparemment, il n'a pas vraiment réussi, mais il a obtenu l'immortalité dans l'histoire chinoise. C'est quelqu'un qui a introduit un certain nombre d'innovations dans les objets et les méthodes de sacrifice officiel. Et l'une de ses décisions les plus importantes du point de vue rituel a été en 112 avant l'ère chrétienne, donc de faire justement de Taiyi, du grand 1, son principal objet de culte, hein, sur un autel exclusivement consacré. Donc c'est vraiment Han Wudi qui transforme disons cette étoile polaire en une véritable divinité, hein, à laquelle est rendu un culte d'État, hein, et du coup, en fait, comme on va le voir, en fait, c'est une façon pour Han Wudi de se diviniser lui-même. Bon. Donc voilà, c'est déjà une sorte de manière de s'immortaliser soi-même. Hein. Bon. Alors, là-dessus intervient donc un chercheur américain, que vous avez ici à l'image, notre collègue de Chicago, donc Donald Harper, qui, alors, alors, vous avez justement, je vous cite ces noms parce que ce sont vraiment des très grands spécialistes de ces manuscrits sur bambou. Hein. On pourrait parler de bamboulogie, enfin bon, dont notre collègue national Marc Kalinowski est également un très grand spécialiste. Donc Marc Kalinowski et Donald Harper et Li Ling, donc vous avez un trio chinois, américain, français, hein, qui travaillent ensemble sur ces manuscrits. Marc Kalinowski, donc je rappelle qu'il est directeur d'études émérite à l'EPHE, donc l'École pratique des hautes études, et il a consacré, à ma connaissance, donc une année d'enseignement justement au texte du Taiyi Sheng Shui. Alors, Donald Harper, je reviens à lui, j'oublie de mentionner le principal, Marc Kalinowski est avec Stéphane Feuillat de l'Université Paris-Cité et moi-même, nous sommes donc le trio donc, qui coordonne la Bibliothèque Bleue, hein, des budés chinois aux belles lettres. Alors, Donald Harper, en se fondant sur les hypothèses du collègue chinois Li Ling, hein, les a étendues au-delà donc des limites du royaume de Chou, en émettant l'hypothèse que le culte du grand 1 n'était pas spécifiquement un phénomène du royaume de Chou, mais un aspect de ce qu'il appelle la culture populaire de l'élite, des royaumes combattants et du début des Han. Parce que, en fait, si on admet que le grand 1 était l'esprit associé à l'étoile polaire, on s'étonne un peu que son culte apparaisse subitement, comme par magie, au IVe siècle avant notre ère, hein, et qu'il faut donc supposer que ce culte remonte à une période plus ancienne. Hein. Alors, ce culte du grand 1 a donné naissance évidemment à pas mal de recherches et de publications, notamment de cet autre collègue américain de l'université Harvard, Michael Pewitt, que vous avez ici à l'image, qui a publié donc en 2002 un ouvrage qui a fait date, qui s'intitule « To Become a God, Cosmology, Sacrifice and Self-Divinization in Early China ». Devenir un dieu, cosmologie, sacrifice et auto-divinisation ou divinisation de soi-même dans la Chine ancienne. Et d'une certaine façon, il livre une sorte de résumé de ce livre dans un article qui a été publié dans un ouvrage collectif qui peut intéresser certains d'entre vous. Cet ouvrage collectif s'intitule donc « State Power in Ancient China and Rome », c'est-à-dire « Pouvoir d'État dans la Chine ancienne et à Rome », dirigé par Walter Scheidel, publié donc en 2015. Et dans cet ouvrage collectif, Michael Pewitt a publié cet article qui s'intitule « Ghosts, Gods and the Coming Apocalypse Empire and the Coming Apocalypse », sous-titre « Empire and Religion in Early China and Ancient Rome ». Donc « Ghosts », c'est-à-dire des fantômes, ou des esprits des défunts, gods, c'est-à-dire des dieux, et l'Apocalypse à venir, et sous-titre, donc empire et religion dans la Chine ancienne et dans la Rome ancienne. Alors, dans cet article, il écrit ceci, hein, je traduis, hein, bien que l'empire Qin soit tombé rapidement, effectivement il n'a duré que quelques années, l'empire Han qui a suivi a tenté de recréer un ordre comparable. En effet, l'empereur Wu, dont je viens de parler, a largement recréé le système rituel des Qin. Ce système rituel créé pour le premier empereur et consolidé donc par l'empereur Wu soulignait les revendications de souveraineté absolue et d'un empire sans fin. Le souverain parcourait l'ensemble du royaume, accomplissant personnellement des sacrifices sur les sites sacrés de chaque région. Ayant ainsi incarné personnellement chacun de ces sites, il montait sur un autel rituel et chaque marche de l'autel représentait une nouvelle étape dans la hiérarchie du Panthéon. Le deuxième échelon le plus élevé était le ciel. Le souverain passait alors au niveau le plus élevé, celui du grand 1, après quoi le souverain montait au ciel en tant qu'immortel. Donc là, vous voyez donc cette recréation par Han Wudi, hein, de ce moment initial de la création de l'empire unifié et centralisé par le premier empereur, dont le premier geste a été effectivement de faire le tour de son empire, hein, en passant par des pics sacrés, etc., pour affirmer donc sa souveraineté absolue sur tout le territoire, hein, c'est-à-dire donc sur le Tianxia, sur tout ce qui est sous le ciel. Il y a là en fait l'évocation par ce rite sacrificiel d'État d'un pouvoir absolu de l'empereur sur le monde, qui permet du coup à Han Wudi de se diviniser et de s'immortaliser lui-même. Alors évidemment, la tentation est grande, bien sûr, d'établir le parallèle avec ce que certains empereurs romains donc ont fait, hein, c'est-à-dire de se diviniser eux-mêmes. Alors, dois en rester là pour aujourd'hui. Hein, ça nous promet encore pas mal de recherche et de questionnement pour justement la reprise de nos travaux en novembre. Comme je le dis toujours, si le Bouddha nous prête vie, nous nous retrouvons ici même donc en novembre prochain pour la suite de nos travaux. Alors, nous allons nous quitter justement sur une note plus contemporaine parce que la surprise, c'est que quand vous recherchez l'expression grand 1, Taï, sur Internet, voilà ce que vous trouvez. Donc, c'est le dernier chanteur pop chinois à la mode. Donc, il fait de la pop que j'aime pas beaucoup. Enfin, c'est très, comment dire, de la pop aux caractéristiques chinoises. Mais en fait, son nom d'artiste est modestement donc le grand 1. Voilà. Alors, entre-temps, d'ici novembre, nous aurons plein de rendez-vous intéressants au mois de juin. À l'occasion de toute une série de conférences invitées, dont les annonces détaillées seront postées en temps voulu sur le site du Collège de France. Nous allons commencer par deux collègues japonais, parce que en fait, nos collègues japonais sont vraiment, je le dis toujours, les meilleurs connaisseurs de leurs voisins chinois. Donc le jeudi 5 juin, nous aurons une conférence du professeur Nakajima Takahiro de l'université de Tokyo, qui va nous parler de la sinologie japonaise moderne comme discours impérial. Donc là, vous voyez que c'est quelqu'un qui est dans une perspective assez critique. Une autre collègue japonaise va arriver en même temps pour faire une série de quatre conférences. Donc, elle s'appelle Shimazu Naoko, également de l'université de Tokyo, et elle va nous parler donc des guerres menées par le Japon au XXe siècle, de 1905 à 1945, et aborder principalement du point de vue de la diplomatie japonaise, dont elle est spécialiste. Et enfin, le jeudi, alors donc ça va nous occuper tous les jeudis du mois de juin, et ensuite, le jeudi 26 juin, le dernier jeudi de juin, nous aurons un collègue qui vient d'Allemagne, le professeur Demonis Bandera, qui va nous parler donc de la représentation de la Mongolie, du Tibet et du Xinjiang, donc le pays ouïghour, dans les parlements de l'Empire Manchou, de l'Empire Qing et de la République de Chine. Donc en fait, il va nous parler de la situation dont a hérité donc la République populaire de Chine, dans une perspective historique et elle aussi critique. Alors, pour l'heure, permettez-moi donc de vous souhaiter une bonne entrée dans la nouvelle année chinoise, qui commence donc dans une semaine, l'année du serpent de bois, qui va commencer le 29 janvier. Alors, je me suis permis de faire un petit écart culturel en empruntant donc le python K du Livre de la jungle de Rudyard Kipling, vu par Walt Disney. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film d'animation, c'est assez amusant. Et vous avez alors la danse hypnotisante du python K, qui dit en anglais « trust in me » et qui dit en français « aie confiance ». Alors, naturellement, ne faites jamais confiance à des gens qui vous essayent de vous hypnotiser tout en vous étouffant. Bien. Merci beaucoup de votre présence.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.